Sal, on est heureux de se trouver ce dimanche matin. Et merci à Greg qui a donné déjà le message dans cette première partie. C'est important que le Saint-Esprit mette en exergue pour nos vies tout ce qu'il a mis de côté pour nous. Je vais juste te dire en préambule, qu'on peut presque se dire que même les messages les plus difficiles à entendre de la part de Dieu, no notre Église est capable de les entendre pour une raison toute simple. C'est que, et on l'a dit déjà dans la première partie du culte aussi, que Dieu met devant nous pour nos vies, les difficultés, les épreuves, etc., sont pour notre bien. Et je pense que s'il y a une église qui a bien compris ce principe, j'emploie ce mot principe, c'est pas vraiment, c'est plus une vertu, c'est bien la nôtre qui patiente depuis des années maintenant pour des nouveaux locaux, par exemple, qui patiente aussi à travers ce Covid, en étant ici en présentiel ou en étant en visioconférence pour continuer à vivre le culte ensemble. L'honneur de Dieu est que ce culte perdure ou dure jusqu'au bout. Ça fait partie des chromosomes de nos églises et on n'en a pas perdu beaucoup. Peut-être celui du 8 mars et celui du 15 mars qu'on a vécu avec nos frères et sœurs de Villeurbanne. Mais dès le 22 mars, on a été convaincus par le Seigneur qu'il fallait qu'on continue à vivre nos cultes. Ça dure depuis 1978, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et je glorifie Dieu de sa patience et de la volonté qu'il a mise à nos leaders et à nos anciens d'avoir un culte tous les dimanches matins. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Je suis vraiment enthousiaste. On s'est couché à 1 h du matin avec Martine parce qu'on avait l'anniversaire de notre gendre. Donc je me suis dit, Joël, t'es cuit, tu vas endormir tout le monde avec ton message. Et pourtant, je me suis dit, non, c'est pas à toi qu'il faut regarder, c'est au Seigneur. Il y a un livre dans la parole, je suis dessus depuis des années, des années, des années. Jamais il n'est sorti quelque chose de bon, entre guillemets, pour moi, beaucoup beaucoup de choses sont sorties, et de bonnes choses, mais pour l'Assemblée. C'est le livre de l'Ecclésiaste. Alors, on le connaît plus ou moins par cœur en entendant parler des choses qui sont à l'intérieur, parce que ce sont des choses extrêmement modernes. La traduction de Ecclésiaste, Kohelet, veut dire celui qui parle dans l'Assemblée. Vous prenez la parole dans l'Assemblée, vous êtes des Kohelets ou des Ecclésiastes. Je dis pas que vous êtes le contenu de l'Ecclésiaste, vous êtes simplement celui qui parle dans l'Assemblée. Et bien entendu, chacun sait que ce livre aborde des sujets essentiels pour nos vies. Tout en décrivant ce qu'il a vécu, il s'adresse à un auditoire dont les vues sont limitées à leur intellect, limitées à leur ventre, en oubliant l'essentiel. C'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction, c'est que notre Église doit garder ce cap de l'essentiel. On a eu un an de formation là-dessus, on ne va pas y revenir maintenant, mais c'est important. Quel est l'essentiel pour notre Église et pour chacun d'entre nous? C'est un livre actuel. Plus vous le lisez, plus vous trouvez, 21e siècle, matière à réflexion. Et les lecteurs pourraient penser qu'il a été écrit pour aujourd'hui. Il parle de ceux qui croient un peu en Dieu. Et aujourd'hui, on peut dire, oh, beaucoup nous disent, mais on croit un peu en Dieu. Ou alors, oui, on sait qu'il y a un Dieu. D'autres se jettent à corps perdu dans le matérialisme comme base de leur vie et quelque part pensent que ça va être suffisant pour eux. Et on a eu l'occasion de parler avec un jeune homme ces derniers temps qui est dans cette perspective et on le ramène à Jésus-Christ sans arrêt, qui est la base de tout. Alors bien sûr, on parle pas du livre de l'Ecclésiaste sans aborder les principaux thèmes à l'intérieur. Et c'est assez savoureux de prendre, j'ai choisi moi-même, j'ai pas, peut-être d'autres auraient choisi d'autres passages. Ceux qui ont beaucoup de dextérité à lire leur Bible, je vais citer à chaque fois le passage, et puis bien sûr le verset correspondant. Quelques versets, j'ai marqué savoureux dans mon message de l'Ecclésiaste. Ça commence par « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours » dans Ecclésiaste 7, 29. Je ne vais pas répéter à chaque fois le mot « Ecclésiaste hein. ». Un verset pour les étudiants. « Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps ». Alors, beaucoup trop d'études. Mais ceux qui ont vécu des nuits blanches pour préparer médecine ou un CAPES ou autre chose savent bien. Ecclésiaste 12, 14. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit Ecclésiaste 1, verset 9. Et puis, ce fameux verset, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ecclésiaste 4, 12. La sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Il fait bon être riche. Ecclésiaste 9, verset 16. Et puis, le fameux « Il y a un temps pour tout ». Ecclésiaste 3, verset 1. Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui. Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question, Ecclésiaste 7, verset 10. Je m'arrête deux secondes là-dessus pour ce dernier verset. Je pose la question, qui aujourd'hui souhaiterait vivre comme dans les années 50 et 60? Alors comme vous n'étiez pas dans les années 50 et 60, je vais vous expliquer deux, trois choses. Pas de toilette intérieure dans les maisons ou dans les fermes. Pas de chauffage en dehors de la cuisine. Les vitres des chambres gelées l'hiver. Qui souhaiterait retourner aux façades des villes noircies par le chauffage au charbon? Qui souhaiterait connaître à nouveau la guerre? Guerre d'Algérie, par exemple. Ou celle du Vietnam qui avait un reflet français quand même derrière, hein, puisqu'on a été là-bas longtemps. Qui souhaiterait devoir aller au bistrot pour téléphoner? Qui souhaiterait recevoir 18 agrafes dans sa cuisse par un généraliste, et ceci sans anesthésie? Bon, c'était un bon généraliste, hein, parce que les agrafes ont eu leur... ont soigné la personne. Ceux qui ont vécu ces époques révolues ont été heureux, malgré tout. Et d'ailleurs, beaucoup disent « Ah, qu'est-ce qu'on regrette ces temps anciens ?» Ça montre que le matériel ne rend pas heureux, sauf si on l'attribue à Dieu, bien entendu. Alors, les thèmes principaux de ce livre, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, au tout début, il est répété sans cesse. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ça revient à chaque verset. Et dans Ecclésiaste, comme vous le savez, c'est « vanité des vanités, tout est vanité ». Quel contraste! Pour le premier, la jeunesse est le résultat de l'œuvre de Dieu. Et pour le second, l'Ecclésiaste, c'est le résultat de l'œuvre de l'homme. Il est fort probable que l'auteur soit le roi Salomon. En tout cas, tout le monde le dit, je vais pas contrarier les spécialistes. Et ça paraît évident au fur et à mesure qu'on lit le texte, le fils de David, qui était connu pour sa richesse, sa gloire, sa grandeur, et je rajouterai sa décadence. Il a recherché, comme beaucoup aujourd'hui, un sens à sa vie, un vrai bonheur. Ce livre nous parle de différentes vanités dont le Larousse dit que c'est la satisfaction de soi-même, c'est un sentiment d'orgueil qui se rajoute, et de quelqu'un qui étale cette satisfaction. Aussi caractère de ce qui est vain, futile, vide de sens. Alors, j'ai relevé simplement cinq grands thèmes et vous pouvez en avoir peut-être 20 ou 30 ou 40 ou 50, la vanité de la tentative philosophique, beaucoup ont exprimé le fait que ce livre est un livre philosophique. On en parle dans Ecclésiaste 1, versets 12 à 18. La tentative du plaisir, bien sûr, on en a parlé juste avant. La vanité d'une certaine forme de travail, la vanité de la religiosité, et puis celle du matérialisme qui est quand même prépondérant. Alors celle de la philosophie, il est connu, Salomon, pour ses réponses faites à la reine de Saba, par exemple, venue exprès de loin pour constater sa sagesse. Ensuite, vous connaissez l'épisode du bébé réclamé par deux femmes. Salomon tranche et ça assoit son esprit de sagesse et sa réputation d'être sage. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Mais assez vite, semble-t-il, Salomon s'est détourné de Dieu. On ne sait pas jusqu'à quel point, mais quand même, le constat est là. Et la recherche de la sagesse est devenue une fin en soi, et non plus le moyen de vivre mieux avec Dieu. Il a servi son propre intérêt, son orgueil, et la conclusion à la fin de sa vie, et c'est pas nous qui le disons, c'est lui, hein, carrément. J'ai compris que cela était poursuite du vent. Ecclésiaste 1, verset 17. Verset 17, pardon. Notre société est dirigée par des têtes bien pensantes. La plupart sortent des grandes écoles. Je suis surpris de voir l'impact de ceux qui détiennent un pouvoir intellectuel et qui orientent la vie de la société. Mais s'il y a des dérives, malgré des raisonnements extraordinaires, et s'il y a du vide et de l'insatisfaction, c'est comme le conclut l'Ecclésiaste, parce qu'il manque la dimension qui est essentielle et dont Montaigne disait que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Enfin, c'est pas un chrétien, Montaigne, hein. C'est un homme comme non-chrétien, ouais, tout simplement. Donc la philosophie, oui, elle est enseignée à l'école, on va pas contrarier ce qui se fait dans nos écoles, simplement essayons de voir concrètement aussi comment elle peut être utilisée pour l'évangélisation, par exemple, ou pour les besoins de ceux qui sont autour de nous, et que ça soit pas de vains mots, mais des mots utiles. Après, bien sûr, le deuxième thème parle du plaisir, et là, quand on parle du plaisir et de Salomon, 700 princesses comme femmes, 300 concubines, il a certainement confondu harem et hara, mais il est dit à son sujet, ces femmes détournèrent son cœur. Il a aussi versé dans l'excessif dans le domaine du plaisir de la table et lui-même dit, je résolus de livrer ma chair au vin. Il n'a pas le foie et les intestins fragiles comme moi. Enfin, il n'avait pas. Mais sa conclusion encore sur ce thème est vanité des vanités, tout est vanité. Actuellement, notre société vit une recherche effrénée du plaisir. C'est inouï ce qui se passe à tous les niveaux, par n'importe quel moyen. Il devient de plus en plus banalisé comme une carotte pour connaître un bonheur réel, mais qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on lui court après. Mais le problème est là aussi lié au fait de vivre en dehors de la communion avec Dieu et de sa volonté. La vanité du travail, Ecclésiaste 2, versets 3 à 11 et 4, versets 4 à 6. Quand il s'agit de dire travail, ici c'est plus des occupations. Et Salomon a voué une bonne partie de ses occupations à réaliser de grandes œuvres architecturales. Il est passé grand maître dans des domaines scientifiques, zoologiques, etc. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les oiseaux, les reptiles, les poissons. Mais sa conclusion a pourtant été « Oui, j'ai joui de tout mon travail et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Mais je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Alors, c'est pas un appel dans cette pensée-là à la paresse. C'est simplement, encore une fois, que ce travail soit utile à ceux qui nous entourent et à nous-mêmes, nos familles, etc. Cette frénésie de l'occupation, on va dire, ou de la connaissance, même parfois, était vide parce qu'il manquait cette dimension de Dieu, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Nous vivons dans une période, ça va vous paraître évident, où l'on existe parce que l'on fait. Où la raison de vivre et l'identité sont déterminées par l'action. Malheur à ceux qui ne peuvent pas travailler et ceux qui n'ont pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas fait des études suffisantes, par exemple. Et même dans l'Église, parfois, on peut considérer les autres de la même manière, alors que nous sommes égaux, quelle que soit notre position dans le corps. Une des vanités qui ressort de l'Ancien Testament et de l'Ecclésiaste, et qu'on retrouve dans les prophéties et dans tout ce que Jésus dit à ses adversaires, les pharisiens par exemple, c'est la religiosité, hein, chapitre 4, verset 17 et 5, verset 6. Salomon souligne le risque de s'approcher de Dieu sans être prêt à l'écouter. Il m'arrive parfois dans ma propre vie d'avoir une discussion avec quelqu'un. Et la fatigue aidant et peut-être les circonstances, je vois dans les yeux de la personne qui est en face que je ne l'écoute plus. Et elle insiste, elle se rapproche. Bon, elle a un masque, donc elle peut. Et je dis au Seigneur, oh pardon Seigneur, je fais l'effort de revenir vers la personne. C'est pareil avec le Seigneur. Parfois on s'approche, mais on ne l'écoute plus. On a l'impression de l'écouter, on ne l'écoute plus. Et souvent, on a pris des engagements à l'égard de Dieu. On l'a entendu, mais on l'a pas écouté. Voilà, c'est la vanité de la religion de celui qui croit en Dieu, mais qui vit en contradiction avec sa volonté. C'est la vanité de celui qui manifeste de la piété, par exemple, mais qui en renie ceux qui ont fait la force. Et là, c'est pas l'Ecclésiaste qui le dit, c'est Paul à Timothée, chapitre 3, verset 5. Alors, cette approche de la vie avec Dieu se voit aujourd'hui comme hier et comme il y a 3000 ans. On n'a pas évolué. Et puis, bien sûr, on peut pas passer à travers l'Ecclésiaste sans parler du matérialisme. Le Kohelet, comme je l'ai dit au départ, a savouré les bienfaits du matérialisme. Et même au-delà de ce dont il rêvait. C'était une promesse que Dieu lui avait faite, de reconstruire le temple, par exemple. Il s'y est tellement désabusé à propos de ses richesses, et que l'usage qu'il en a fait n'était pas bon. L'usage que Salomon a fait des richesses était pernicieux. Et lui-même conclut en disant, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Je vois bien la cohorte de Ferrari devant ma maison, et le lundi matin, je trépasse, et mes Ferrari sont toujours devant ma maison. Le créateur de Apple, Steve Jobs, dont la société représente 261 milliards d'euros, non, de dollars, bon, ça fait un peu moins quand même en euros, pas exagérer non plus. C'est-à-dire la moitié du budget de la France, décède à l'âge de 56 ans et exprime à la fin de sa vie un petit témoignage. J'ai relevé juste quelques extraits. Il dit « Je suis arrivé », il écrit « Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un exemple de réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, La richesse est tout simplement un aspect de la vie auquel je me suis habitué. La recherche illimitée de la richesse ne fera que transformer une personne en un être tordu comme moi. Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun, et non les illusions provoquées par la richesse. Et bon, le texte, il fait plusieurs pages, et il répète un peu toujours ces choses-là. Steve Jobs était une sorte d'ecclésiaste dans sa vie, avec toute la vanité qu'on a vue derrière. Alors, qu'est-ce qui manque d'essentiel? Salomon, en tout, reconnaît les fausses joies qu'il a cherchées. Ça, c'est déjà une bonne première étape dans notre relation future avec Dieu, dans la relation future avec Dieu. Voilà, il reconnaît les fausses joies qu'il a cherchées sous le soleil et qui n'apportent que vanité et même, parfois et souvent, le malheur. Alors, tout n'est pas mauvais en soi, bien entendu, hein, c'est l'édification qui doit être recherchée. Mais souvent, on passe à côté de l'essentiel, et c'est ce qu'il a fait. Il reconnaît même, dans sa conclusion, Ecclésiaste 8, versets 16 à 17, en disant « Après m'être appliqué de tout mon cœur à connaître la sagesse et avoir considéré les occupations auxquelles l'homme se livre ici-bas, en se refusant le sommeil nuit et jour, j'ai considéré l'œuvre de Dieu quand l'être humain accepte de ne plus être le centre de tout. Alors, il se met à considérer Dieu et son œuvre. C'est un déplacement d'intérêt dans la connaissance de notre faiblesse, de notre incapacité. Malgré qu'on soit capable de tout avec Dieu. Alors, on perçoit le but de ce livre, dissiper les espoirs fallacieux et illusoires pour conduire à un fondement sûr et solide qui permet de pénétrer au-delà de ces domaines terrestres, superficiels. Le but du livre est de montrer que c'est dans la soumission respectueuse à Dieu que l'être humain découvre ce que la philosophie, la culture, la jouissance, la religion, le matérialisme ne peuvent apporter. Le véritable sens de la vie dans un bonheur vrai ne se trouve qu'en Dieu. En disant ça, je me rends parfaitement compte que vous le savez déjà. On a besoin simplement d'être renouvelé dans nos cœurs de ces affirmations-là. Et justement, une affirmation ponctue ce livre. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. La Ferrari, non. Il n'y a rien à y rajouter. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révèle. Ecclésiaste 4, verset 14. Je sais que le bonheur est pour ceux qui révèrent Dieu. Ecclésiaste 8, verset 12. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements. Tiens, c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir entendu ça au début du culte. Car c'est là l'essentiel pour tout homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes, les mauvaises. Ecclésiaste 12, verset 13-14, il n'y a pas de vrai respect si on ne connaît pas ce que Dieu veut et si notre vie n'est pas en accord avec ça. Nos actes, nos pensées, nos paroles révèlent notre vie, notre relation avec Dieu. Le chercher, lui, en désirant vivre comme il nous l'enseigne, c'est connaître la meilleure approche de la vie. Ce n'est pas certainement pas la peine d'avoir tout essayé comme Salomon pour arriver à cette conclusion. On est déjà dedans. On découvre alors que ce que Dieu a créé sous le soleil peut apporter beaucoup de joie. Et l'Ecclésiaste invite ses lecteurs à se réjouir et à jouir de ce que Dieu a donné, à condition de le vivre en Dieu, dans la communion avec lui et selon sa volonté. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses, il a bien le droit. S'il lui accorde la possibilité d'en profiter, il a bien le droit aussi. Et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Ecclésiaste 5, 18. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Ecclésiaste 9, 7. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ecclésiaste 9, 9. Réjouis-toi dans ton adolescence. Bon, pas pour moi, mais il y a certainement quelqu'un ici qui doit être concerné. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais, jeune ou pas. Tiens compte de ton Créateur. Ecclésiaste 11, verset 9 et 12, verset 1. Voilà, le vrai bonheur est dans l'obéissance à Dieu, dans l'harmonie avec lui. Son désir est que nous savourions ses dons. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Il a dit, profitez de tout, bon, sauf de cet arbre. Celui qui est de décider par soi-même ce qui est bon et mauvais. Voilà. Le vrai bonheur est dans l'obéissance à Dieu, le chrétien alors, derrière les richesses matérielles, morales, culturelles, etc., derrière les plaisirs de la vie, affectifs, sexuels, entre autres, y voit un donateur. Le donateur, Dieu. C'est ce que Paul dit en conclusion lui aussi dans Romains 11, versets 33 et 12, verset 2. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, soit la gloire pour toujours. Je vous demande donc, à cause de l'immense bonté de Dieu, de lui offrir votre être tout entier. C'est dans cette attitude que notre vie redécouvre son vrai sens. Je sais, dit l'Ecclésiaste, que le bonheur est pour ceux qui respectent et honorent Dieu. Amen.